Vous êtes sur RTL.
Votre journal maintenant avec Amandine Bégaud. Amandine, pas de confinement pour les truands.
Oui, ça pourrait presque être le titre d'un film. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé ces dernières semaines dans les Bouches-du-Rhône. Trois hommes ont été mis en examen hier pour vol en bande organisée. Trois hommes accusés d'avoir pillé des coffres-forts dans plus d'une trentaine de maisons de retraite. David Brugère est le chef de la sécurité de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.
Ce sont des vols faits sans violence, des fractions de l'établissement, de l'EHPAD. Ils allaient au bureau de la direction et s'attaquaient au coffre, décellaient le coffre, repartaient avec le coffre, le chargeaient dans leur voiture qu'ils amenaient au plus près. Ils s'attaquaient au coffre à la masse, ils l'ouvraient, l'éventraient, partageaient le butin et assez rapidement revendaient l'or, vidaient les cartes bleues aux distributeurs avoisinants. Alors c'est une affaire incroyable à plusieurs titres, d'une part parce qu'elle tombe en période de confinement, avec une population victime qui est ultra sensible, hein, puisque ce sont les personnes qui sont hébergées dans les EHPAD. Et incroyable aussi parce que les techniques de police sont un peu secouées. Il faut vous imaginer faire des filatures H24 en période de confinement avec des rues vides. La nuit par exemple, donc ça a été très compliqué, très dur, mais à la fois très instructif. Et ça a marché.
David Brugère, le chef de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, au micro RTL d'Hugo Hamelin. Le préjudice est estimé à plus de 100 000 euros pour les bijoux, 20 000 pour l'argent retiré avec les cartes bleues volées. Les malfaiteurs auraient par ailleurs dérobé des masques chirurgicaux, plus de 300, et des solutions hydroalcooliques.
Allez, on en vient aux pistes de déconfinement. Et à moins de 3 semaines maintenant, du 11 mai, Emmanuel Macron a aujourd'hui rendez-vous avec les élus locaux.
Échange par visioconférence avec des maires et des associations de maires. Ce sera dès 9h30. Hier, lors de son déplacement en Bretagne, le chef de l'État évoquait la possibilité d'une reprise différenciée selon les régions. Demain, c'est avec les restaurateurs et les hôteliers que le chef de l'État échangera. Le secteur, on le sait, est très touché et personne ne sait pour l'instant quand ils pourront rouvrir. Pour faire face, Esther, patronne d'une pizzeria à Lannion, a décidé de travailler chez un maraîcher. Elle cueille des fraises le matin et des tomates l'après-midi.
Je suis venue ici parce que depuis le 14 mars au soir, je n'ai plus de revenus. C'est-à-dire que quand un indépendant ne travaille pas, il n'a rien qui rentre. Pour arrêter de creuser nos trésoreries, parce qu'on n'a aucune visibilité quant à la reprise de notre activité, et continuer à vivre. Et les assurances nous ont abandonnés au même titre que l'État, puisque ce leurre perpétuel des 1500 euros et de l'aide bancaire n'est pas forcément réel pour tout le monde. Tout le monde n'y a pas le droit.
Le témoignage d'Esther, patronne d'une pizzeria à Lannion, avec Nicolas Bobby pour RTL. Selon nos informations, le ministère de l'économie aurait validé le principe de la création d'un fonds d'investissement spécifique à la restauration. Il serait financé à la fois par l'État, les régions, mais aussi les assureurs. Info signée Martial You, le chef du service économie de RTL. En vue du déconfinement, les infirmiers eux, demandent à pouvoir effectuer eux-mêmes des tests au domicile de leurs patients. Ce serait, disent-ils, un moyen d'éviter une deuxième vague. Patrick Chambaud-Redon est le président de l'Ordre national des infirmiers.
Ça pourrait être lors de visites à domicile, mais on parle là d'un patient, mais on peut parler aussi de son entourage, la famille, le conjoint, l'enfant, qui dit « je me sens pas bien, infirmier, on a des compétences cliniques ». Donc c'est déjà prendre la température de la personne et ensuite éventuellement de faire un test, un écouvillonnage nasal ou alors un prélèvement sanguin pour voir quel est son statut sérologique. Ça implique qu'on ait du matériel, des tubes de prélèvement, des tubes d'écouvillonnage et qu'on ait un automate à proximité ou un laboratoire auquel apporter ce prélèvement pour avoir les résultats dans les meilleurs délais. Je pense que dans cette période-là où on va avoir besoin de sécurité sanitaire, de savoir si les gens sont en capacité de retourner sur le lieu de travail, de ne pas être contaminants eux-mêmes. Toutes ces mesures-là permettraient de mener à bien cette période de déconfinement sans risquer une deuxième vague telle qu'elle nous est prédite. C'est une façon de l'endiguer et de participer aux mesures barrières. Et
Patrick Chambaud-Redon, le président de l'Ordre national des infirmiers, joint pour RTL par Sophie Jousselin.
Tiens, un autre rendez-vous à suivre aujourd'hui et capital, ce nouveau Conseil européen.
Les dirigeants des 27 vont tenter de trouver les moyens de sortir l'Union européenne de la récession et ce le plus vite possible. Sur la table, Bénédicte Assar, une idée proposée par l'Espagne, la dette perpétuelle.
Oui, une dette remboursable dans 50, 100 ans, voire une échéance non précisée. C'est l'idée qui sera mise sur la table par les Espagnols. La Banque Centrale Européenne accorderait la ligne de crédit et les pays ne rembourseraient pas le capital, mais que les intérêts, grâce à de nouvelles ressources, comme par exemple une taxe écolo. L'idée plaît aux pays du Sud, la France ne dit pas non, les Pays-Bas, eux, ruent dans les brancards. Alors ce n'est pas en 3 heures de visioconférence que les 27 vont se mettre d'accord sur le financement financement de ce plan de relance. Mais aujourd'hui, ce qui pourrait être acté, ce sont les principes. Un plan de reconstruction européen d'une ampleur énorme, on parle de 1 000 à 1 500 milliards d'euros, pour aider en priorité les pays les plus touchés par l'épidémie, l'Espagne, l'Italie, avec des prêts, mais aussi des subventions, de l'argent donné sans contrepartie, mais encore des investissements dans l'écologie, le numérique ou la santé. Parce qu'aucun pays, aucun, de l'Allemagne au Portugal, de la Roumanie à la Finlande, aucun ne pourra sortir seul de cette crise.
Explication signée Bénédicte Tassard pour RTL. Selon les dernières prévisions du FMI, l'Union européenne devrait enregistrer une chute record de son PIB cette année à moins 7,1%. La lutte contre le coronavirus sera longue, prévient de son côté l'OMS qui recense désormais plus de 180 000 morts dans le monde. Pays le plus touché, les États-Unis, où des manifestations anti-confinement se sont poursuivies. C'était le cas cette nuit en Virginie. De nombreux Américains réclament la réouverture de l'économie. Plus de 22 millions d'entre eux, on le rappelle, ont perdu leur emploi depuis le début de l'épidémie.
Merci beaucoup Amandine. On vous retrouvera tout à l'heure, 7h30, avec Yves Calvi dans cette émission. À tout à l'heure. Un mot du temps à nouveau, Anthony, avec une journée encore agréable en termes de température.
Oui, je pense que le service météo se répète depuis quelques jours, mais il y aura encore un ciel tout bleu, totalement dégagé sur un large quart nord-est aujourd'hui, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, ailleurs, plus à l'ouest, quelques cumulus pourraient donner quelques gouttes en fin de journée entre la Bretagne et le Val-de-Loire, averses aussi sur tous nos reliefs, et puis les quelques nuages ce matin présents dans le sud-ouest vont laisser la place à quelques éclaircies qui seront plus belles en allant vers la côte atlantique, et puis vous avez retrouvé votre soleil sur tout le pourtour méditerranéen. Les températures donc très douces cet après-midi, avec 17 degrés certes seulement pour Aurillac et La Rochelle, mais 20 degrés à Bordeaux, Perpignan et Biarritz, 22 à Limoges et à Caen, 23 pour Tours, Abbeville et Montélimar, 24 degrés, température digne d'un mois de juillet pour Lille, mais aussi pour Orléans, Nancy et Rennes, et 25 pour Paris et Strasbourg. Je vous rappelle que deux départements du sud-ouest sont en alerte au cru. Il s'agit des Landes et du Gers, compte tenu des pluies importantes des trois derniers jours.
Merci Anthony.